un élément de fatigue persistante, et puis des plaintes cognitives avec des troubles de la concentration, des troubles kinésiques et des lenteurs d'idéation. Alors vous comprenez que c'est une définition quand même très large. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, hein, il y a beaucoup de gens qui ont mal partout. Donc d'ici là, vous voyez, alors le terrible de l'histoire, c'est que vous avez toujours une bonne âme qui va lui dire « Et c'est pas un Lyme ?» Et alors, automatiquement, vous avez la consultation. Donc la consultation, on envisage tout. Et puis après, à la fin, c'est la question qui tue. C'est « Et si c'était un Lyme ?» Et on est reparti pour rediscuter un petit peu le tableau. Alors, évidemment, ça, il faut reconnaître les choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu toutes ces controverses, il y a eu un travail qui a été fait d'éclaircissement de tout ça. Et c'est quand même intéressant parce que, à travers ces problématiques, on a essayé de décortiquer toutes ces personnes qui étaient en mal-être physique et psychique. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Et en particulier, je vous signale là, trois études récentes françaises qui ont toutes à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire d'avoir suivi de façon chronologique, consécutive, des personnes qui se présentaient avec une suspicion de Lyme, plusieurs centaines de personnes par centre. Et donc il y avait un centre donc à Paris, à Pitié-Salpêtrière et Ricom, donc à Besançon avec notre collègue Chirouz et à Nancy avec un pilotage par Christian Rabot. Donc les trois ont été publiés, dont deux dans une grande revue d'infectiologie, la revue majeure d'infectiologie clinique américaine, donc Clinical Infectious Diseases. Et donc ça rassemble plus de 1000 patients. Et alors ce qui est intéressant, c'est que, à des précisions près, parce qu'on peut comprendre qu'il y a des problèmes de terminologie, mais les données sont assez cohérentes et montrent plusieurs choses. La première, c'est que, en définitive, ne sera confirmé le diagnostic sur des données de sérologie, d'histoire clinique, le diagnostic de borréliose de Lyme, que à peu près dans 15% des cas. Et vous avez la moitié des autres cas qui sont rattachés à une situation caractérisée à un autre diagnostic. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que c'est assez navrant, c'est-à-dire que des personnes qui rentrent dans une obsession de Lyme vont être en fixation là-dessus alors qu'elles ont possiblement un autre diagnostic. Donc cette errance diagnostique et thérapeutique va aboutir à des non-diagnostics d'infections qui doivent être prises en charge. Et vous voyez un peu un panel de toutes ces manifestations qui peuvent être des arthroses, des arthrites. Alors la fibromyalgie qui est une entité particulière, mais qui ressemble beaucoup dans ces manifestations donc au syndrome qu'on peut appeler post-Lyme. Hein. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a traité, effectivement, il y a des personnes qui ont des manifestations. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une multiplication active du germe et que c'est plus un élément séquelaire. Vous voyez, on a même des scléroses en plaques qui ont été étiquetées au départ Lyme, hein, donc c'est quand même grave. Et alors après, il y a toute l'ambiance donc psychologique, pour ne pas dire dans certains cas psychiatriques, anxiété, dépression, épuisement, syndrome de fatigue chronique. Alors si on prend effectivement toutes les personnes fatiguées, vous comprenez, ça fait potentiellement beaucoup de diagnostics de Lyme. Et puis, on a aussi des maladies inflammatoires auto-immunes. Donc, ça suppose quand même à la fois donc une connaissance de toutes ces pathologies potentielles, et parfois le diagnostic n'est pas très simple. Et on voit qu'il y a quand même environ 30% où on peut écarter le diagnostic de Lyme, mais il n'y a pas de diagnostic précis, donc on est potentiellement dans quelque chose qui n'est pas encore identifié. Alors, l'avantage majeur quand même de toutes ces controverses, le côté positif un peu de l'histoire, c'est que ça a fait avancer quand même les choses en termes de réflexion et de recherche pour se dire, entre autres, est-ce qu'il n'y a pas d'autres infections? Alors, si vous lisez le Lyme, vous verrez, il y a d'autres infections possibles à travers l'éthique, et donc on peut potentiellement avoir des manifestations d'autres infections. Alors je passerai assez vite parce que c'est assez technique, mais je vous donnerai quand même les principes généraux. La recherche de témoins biologiques par notamment la recherche d'anticorps sérologiques, malheureusement, est confrontée à une difficulté. C'est-à-dire que les tests dont nous disposons n'ont pas une sensibilité parfaite, loin de là, surtout aux phases initiales. Donc on peut avoir des faux résultats négatifs au début. Donc il y a des personnes qui, ayant cette information, disent « Oui, mais vous ne trouvez pas de sérologie, mais je suis quand même infecté. » Et donc, et après, il y a des faux positifs. Il y a des faux positifs. Et donc, il faut essayer de débobiner l'histoire pour savoir, justement, dans ce diagnostic qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire les autres causes de ce type de manifestation, s'il n'y a pas un élément croisé. Et puis, il y a ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, effectivement, ont une infection de Lyme, dont ils sont guéris, et puis ils ont tout à fait le droit d'avoir autre chose. Et ils gardent quand même une sérologie positive cicatricielle, vous voyez. Donc c'est compliqué. Et puis après, alors, il y a eu beaucoup de discussions sur les tests en Allemagne, etc. Il y a des laboratoires qui ont été fermés. En fait, ça a été il y a toutes des controverses sur en particulier deux laboratoires en France. Donc, où on vous propose, moyennant finance, de faire des tests spéciaux, etc. Et qui, comme par hasard, concluent à une positivité parce qu'on recherche un témoin X ou Y. Voilà. Donc, là, les recommandations de la Haute Autorité de Santé ont été d'essayer de cadrer un petit peu les indications pour ne pas partir de façon erronée. Et donc, il y a des indications théoriques pour faire telle ou telle sérologie. Alors, les traitements, je vous ai mis les données les plus récentes, puisqu'il y a eu une évolution, et je suis assez content parce que c'est un peu satisfaction personnelle. Les dernières recommandations correspondent à ce que je fais depuis plus de 5 ans. Hein, donc, voilà, donc il y a toujours un temps, un petit peu de latence pour accepter un certain nombre de choses. Mais schématiquement, ça repose essentiellement sur 3 antibiotiques avec des médicaments de deuxième ligne. Et vous voyez, ce qu'il faut retenir un petit peu pour les non-spécialistes, c'est que le traitement comporte un traitement relativement long pour une infection. Donc, puisqu'on est entre 2 et 4 semaines de traitement. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que, vu les problèmes de maladies chroniques potentielles, la tentation a été de prolonger les traitements, de les alterner. Et donc, il y a toute une discussion, toute une controverse, et il y a eu des études, alors je ne vous les ai pas mises, mais il y a eu des études tout à fait bien faites, en particulier américaines. Alors, les Américains ont parfois un bon côté, hein, parce qu'ils ne sont pas toujours dans la subtilité, mais ils sont dans une certaine rigueur, en disant, on va faire ça, on regarde, on mesure, voilà. Et donc, il y a eu des papiers dans le New England, etc., qui démontraient que le fait de prolonger les traitements n'amenait pas nécessairement une amélioration en termes de symptomatologie. Voilà. Donc, ça, c'est important de bien choisir, évidemment, les antibiotiques, hein, mais avec un certain nombre de règles. Alors, et je suis déjà assez avancé dans mon topo, là, maintenant, en termes de prévention, bien évidemment, il faut essayer d'éviter d'être piqué par des tiques, en particulier, un certain nombre sont infectés par ce germe. Et donc, il faut essayer de se protéger, il ne faut pas nécessairement s'allonger en short dans une zone boisée humide d'Alsace en été. Hein, voilà. Un élément important, c'est que quand on revient, il faut regarder partout, dans le cuir chevelu, partout, surtout pour les enfants qui se sont amusés, qui ont roulé, etc., pour voir pourquoi, parce que il faut essayer de retirer précocement parce que le risque de transmission augmente avec la durée de fixation. Une fois que l'animal s'est gorgé, il peut régurgiter et il régurgitera d'autant plus qu'on est loin de la fixation. Donc vous voyez, c'est important d'essayer de retirer dans la demi-journée éventuellement ces tiques. Alors il ne faut pas non plus en faire un malheur si effectivement on trouve. Alors il faut le faire. Alors il y a des pinces, les pharmaciennes, toutes les pharmacies sont capables de vous vendre des tiques tiques. Hein. Il y a même 2 dimensions, etc. Enfin, et donc il y a un petit coup à prendre, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'écraser évidemment l'animal sur la peau. Il faut éviter d'essayer de l'anesthésie avec de l'éther, etc. Et il faut le retirer de façon perpendiculaire en essayant d'éviter de lui couper la tête. Hein. Voilà. Donc, alors, il y a eu une discussion, c'est est-ce qu'il ne faut pas donner un traitement juste donc après la piqûre alors, c'est non recommandé en France. Dans certains cas, il y a eu un essai qui a été publié dans le New England qui montrait qu'effectivement, si on traite juste après une piqûre, bien évidemment, on aura moins d'émergence d'infection clinique. Et donc, ça ne peut s'envisager que dans des situations très, très particulières de femmes enceintes, d'enfants de moins de 8 ans et d'immunodéprimés. Voilà. Et donc, tout ça, ça aboutit à un travail quand même important, donc au niveau français notamment. Mais il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se passent dans les autres. Alors, j'ai pas fait la courbe des publications sur le Lyme, hein, c'est exponentiel. Et donc, toujours est-il qu'il y a un document qui est pas mal fait donc de l'HAS, avec un argumentaire, donc ça apporte beaucoup de précision. Et puis après, compte tenu des controverses et du refus des sociétés savantes de signer en tant que tel le texte à cause de cette histoire de définition du syndrome donc de manifestation persistante, les sociétés savantes, alors toutes, hein, c'est de façon assez remarquable, hein, toutes les sociétés savantes d'infectieux, de neurologie, etc., etc., se sont réunis et ont produit un document qui est des recommandations un peu aménagées par rapport aux recommandations de l'HAS et qui ont été publiées récemment dans la revue française de médecine et maladies infectieuses en 2019, donc vous pouvez y référer, il y a 3 articles, il y a toute une série d'articles autour, en particulier des équipes de Marseille qui se sont intéressées au problème de la latence, etc. Donc il y a des choses intéressantes pour ceux qui techniquement veulent approfondir les choses. Alors, on a abouti à quoi ? Bien, on a abouti, comme je l'ai mis un petit peu plus avant, dans les diagnostics différentiels, ben, il y a une notion de faire un bilan étiologique devant ces manifestations et est apparaît la nécessité à tous d'avoir des centres spécialisés multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'infectiologue, mais aussi les biologistes, les neurologues, les rhumatos, les psys. Voilà, parce qu'il y a manifestement une situation de souffrance psychique et c'est important de prendre en compte et d'essayer de faire un bon diagnostic. Donc, il y a eu création, alors on est rentré dans la machinerie administrative française, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une sélection, entre guillemets, mais très particulière, parce que c'est toujours le problème de qui choisit les centres. Donc, il y a eu une discussion des centres de référence, donc il y a quelques centres de référence en France. Alors, effectivement, ils sont censés faire de la recherche, mais ils vont avoir surtout des emmerdements, je pense, si vous me permettez. Et puis, des centres de compétences. Alors, les centres de compétences, on en fait partie, le service en fait partie, le CHU. La majorité des CHU sont en général centres de compétences, c'est-à-dire ont l'obligation, parce qu'il y a non seulement un affichage, mais aussi des obligations, d'organiser une filière de soins, donc un parcours de soins des personnes qui se présenteraient avec une suspicion de Lyme, ce qui est quand même en définitive une bonne chose. Et voilà, donc voilà les éléments que j'ai essayé de résumer donc pour vous apporter donc les éléments de réflexion et vous éclairer un petit peu pour la suite en termes de considération des problèmes que ça peut soulever. Merci.
Tu as un diaporama,
Jean-Paul ? Je vais prendre le fil.
Alors, qu'est-ce que tu veux ? Oui. Il va falloir que tu le rapproches.